Chapitre 27. Ça faisait du bien de frapper. J'aimais le choc gratifiant de mon poing ganté contre le sac de sable. J'aimais sentir ma jambe avant pivoter, mes hanches tournées et mon épaule roulée quand je lançais tout le poids du corps dans mon cou. Direct, direct, direct. Uppercut, swing, feinte à gauche, crochet du gauche bas, crochet du gauche haut, deuxième swing, pas en V, gauche, droite, esquive rotative, uppercut, et on recommence. Frappez plus fort, bougez plus vite, frappez. 4h30 du matin. Dehors, le noir complet. Un froid cruel, le cœur de la nuit, loin du jour. Dans toute la ville, les gens sensés, normaux, dormaient à poings fermés dans leur lit douillet. J'étais toute seule au milieu d'une salle de sport ouverte 24h/24 à Cambridge, et je mettais une dérouillée au sac de frappe. Ça faisait un moment que j'y étais. Assez longtemps pour que mes longs cheveux bruns soient plaqués sur mon crâne, que mon survêtement antitranspirant soit trempé et mes bras et mes jambes luisants de sueur. Comme je portais un coup particulièrement puissant, mes bras en projetaient les gouttes sur le tapis de sol bleu. Je ne suis pas une jolie fille. Ces derniers temps, ma silhouette est trop sèche, mon visage trop dur. Mais je suis forte. Et à me voir dans le mur de miroir en face de moi, j'étais fière des muscles qui donnaient du volume à mes épaules, du galbe à mes biceps, fière de mon air hargneux. Si des hommes avaient été présents dans la salle à suivre leur propre programme d'exercice, ils n'auraient pas pu s'empêcher de faire des commentaires. De rire de mon corps en âge, de s'étonner de ma façon de tout donner, de me demander comment il s'appelait et ce qu'il avait bien pu faire pour me mettre aussi en colère. Raison de plus de venir à 4h du matin pour fuir des rêves agités et une horloge interne déréglée qui, de toute façon, n'avait pas l'habitude de dormir la nuit. Seule, je pouvais frapper aussi fort que je le voulais, aussi longtemps que je le voulais. Seule, je n'avais pas à m'excuser d'être moi. Les filles n'ont pas la partie facile, je trouve. Que des garçons se bagarrent, se jettent les uns sur les autres, s'empoignent, tout le monde juge ça normal. Mais qu'une petite fille donne un coup et tout de suite on lui dira que ce n'est pas beau de frapper. On encourage les garçons à devenir forts, à chercher sur leurs bras maigrichons et leurs torses fins les premiers signes de développement musculaire. Les filles, dès l'âge de 8 ans, se posent déjà trop de questions sur la finesse de leur taille et s'inquiètent à l'idée d'avoir cette culotte de cheval tant redoutée. Nous ne pensons pas à prendre du muscle, mais en permanence à ne pas prendre de poids. On complimente les filles sur leur beauté, leur souplesse et leur grâce. Et la force musculaire qu'il faut dans le haut du corps pour grimper à un arbre, les muscles profonds qu'il faut pour parcourir une échelle de singe. Sur les aires de jeu de tout le pays, les petites filles réalisent des exploits physiques. Mais leurs parents les félicitent rarement et elles finissent par passer de plus en plus de temps à essayer d'être jolies puisque c'est ça qui leur vaut des éloges. Jusqu'à récemment, je n'étais pas différente. J'ai appris l'agressivité à force de sacrifices, d'entraînement, de répétition, de renforcement musculaire. Faire l'expérience de la violente douleur au cou qui suit un uppercut au menton ou de la sensation immédiate d'avoir les yeux noyés quand on reçoit un coup de poing dans le nez. La douleur, ai-je découvert, est passagère. Tandis que la satisfaction de ne pas céder de terrain, puis de riposter furieusement, dure toute l'après-midi. Il m'a fallu apprendre à plonger tout au fond de moi pour y retrouver cet instinct qui avait réussi à survivre à toutes ces années auprès de ma mère. Cet instinct qui me permettrait enfin d'arrêter de m'excuser et de commencer à rendre les coups. Après environ 4 mois de boxe, j'ai surpris mon reflet dans le miroir. J'ai remarqué des lignes qui se dessinaient sur mes épaules, des courbes dans mon dos, des muscles. Résultat de mes 50 pompes matin et soir. De mes séances de corde à sauter et de sac de frappe, de mes exercices avec la poire de vitesse. Du triplement de ma ration quotidienne de protéines, parce que j'aurais beau dire... Il y a une différence entre les filles et les garçons. À la base, ils ont une masse musculaire plus importante, qu'ils augmentent plus efficacement et conservent moins difficilement. Donc, si je voulais m'étoffer, il fallait manger et manger encore. Du blanc d'œuf et des saucisses de volaille, 200 grammes de blanc de poulet désossé, 200 grammes de poisson, des boissons protéinées agrémentées de beurre de cacahuète, des yaourts à la grecque enrichis de protéines en poudre. Pour finir, mon coach m'a fait faire du travail aux pneus. De gros pneus de tracteur bien lourds, que je devais frapper comme une sourde, retourner avant de sauter dessus. Quand j'ai franchi le cap des 6 mois, je m'étais à la fois asséchée et étoffée. Les gens regardaient mes bras avec étonnement quand je sortais en public. Les adolescents remarquaient ma façon de bouger, me laissaient davantage de place quand le métro était bondé. Les hommes me regardaient dans les yeux avec un peu plus de respect. Et ça me plaisait. La douleur physique n'est rien, je m'en suis rendu compte. Renoncer à sa peur, trouver la rage en soi et se sentir forte, voilà ce qui change tout. Sauf quand il est 2 heures du matin et qu'on rêve d'un bébé qui n'a pas pu exister, ou de sa mère infanticide qui a bel et bien existé, ou de Stan Miller et de son torse ensanglanté empalé sur des pics en fer. Est-ce que le fait d'avoir tué faisait de moi une terreur? Ou bien est-ce que ça me demandait encore plus de courage de continuer à marteler le sac de frappe alors que mon propre visage creusé se moquait de moi dans le miroir du fond? J'ai fait encore 30 minutes de sac. Ensuite, je suis passée aux appareils de muscu. Enfin, le stepper, suivi de la corde à sauter. Voilà. C'était ma dernière séance avant un affrontement comme on n'en connaît qu'une fois dans une vie. Les 38 heures à venir seraient consacrées au repos et à la récupération. Comme une athlète professionnelle, je ne ferai rien pendant les 2 jours précédant le marathon. Il fallait être fraîche et dispose pour samedi soir, 20 heures. Il fallait être prête. 6 heures du matin, les gens commençaient à arriver pour leur rituel quotidien. Je les ai laissés, je suis rentrée en titubant dans les vestiaires et je suis allée tout droit prendre une douche bien chaude, fumante. J'y suis restée longtemps à arroser mes muscles fourbus. Et je me suis demandé si j'étais si forte, si j'avais tant progressé au cours de cette dernière année, comment se faisait-il que je sois encore à ce point terrorisée par un bébé nommé Abigail? Je suis rentrée à pied de la salle de sport. J'ai observé les nuages que formait mon haleine dans l'air à moins 15. J'ai regardé le soleil se hisser au ralenti au-dessus de l'horizon gris morne. J'ai croisé des étudiants qui bâillaient et des employés qui partaient prendre leur train du matin, la tête rentrée dans les épaules, et tous se dirigeaient vers l'esplanade en briques d'Harvard Square alors que je m'en éloignais. Je gardais mes mains bien au fond de mes poches pour les réchauffer et mes oreilles sous une écharpe marron unie. Le froid ne me dérangeait pas. Il était revigorant après ma séance de sport. Je marchais sans me presser, le corps enfin lessivé et prêt à s'écrouler sur mon lit. Dans ces moments-là, j'étais presque capable d'admirer le monde qui m'entourait. Presque capable de sentir l'odeur puissante d'un flocon de neige sur le bout de mon nez. D'apprécier la beauté de l'aube qui striait l'horizon de rose et d'orange et embrasait les rangées denses d'immeubles. Je ne voulais pas mourir. L'idée m'est venue alors que je marchais depuis un quart d'heure vers ma chambre solitaire. J'avais des remords. Je n'étais pas quelqu'un de très bien. J'avais manigancé la mort d'un homme, j'avais fait quelque chose d'horrible à ma propre mère et j'avais perdu mes 2 meilleurs amis. Vu comme ça, on se demande bien pourquoi je me souciais de ce qui pourrait se passer vers 20 heures le lendemain. Mais je n'étais pas prête à baisser les bras. D'accord, ma vie était un gigantesque ratage. Mais je me sentais... je ne sais pas, comme à la veille d'une découverte. Comme si je réalisais enfin ce dont mes bras et mes jambes étaient capables, comme si, à 28 ans, j'apprenais enfin à être moi-même. Je voulais vivre d'autres matins comme celui-là, d'autres séances de sac de frappe, d'autres journées d'hiver vivifiantes. Je voulais promener la chienne, qui n'était pas ma chienne, lisser son joli museau entre mes mains. Je voulais courir, rire, et pourquoi pas, soyons fous, tomber amoureuse. Avoir des enfants, les élever dans les montagnes, dans un endroit où chacun s'occuperait de ses affaires, mais regarderait aussi ses enfants dans les yeux en souriant. J'ai repensé à l'agent McKerrett, à son invitation à déjeuner, au fait que je devais tenir ma dernière permanence ce soir et sans doute ne plus jamais le revoir. 37 heures à vivre. Qu'est-ce que j'attendais? J'étais comme j'étais. Ce qui était fait, et dans une journée et demie, ce qui devait se produire, se produirait. Fini de s'entraîner. Fini de planifier. Fini de se préparer. Vivre. C'était la seule chose qui me restait à faire, pendant chacune de ces 37 dernières heures. J'ai commencé à y penser, à l'envisager vraiment sérieusement. Et là, en tournant au coin de ma rue, j'ai trouvé Tante Nancy devant chez moi. Je connais ma tante depuis près de 20 ans. C'est une femme qui a l'esprit pratique. Elle se lève tôt, se couche tard et ne se ménage pas entre les deux. La vie apporte son lot de problèmes, mais aucun qui ne saurait être rapidement identifié et dûment résolu. L'huile de coude vient à bout de presque toutes les difficultés. Sinon, peut-être qu'une assiette de brownie tout juste sortie du four fera l'affaire. Au cours des années passées ensemble, nous avons pleuré un peu, nous nous sommes parfois prises dans les bras, mais par-dessus tout, nous avons ri. Ma tante est une adepte du rire. C'est indispensable quand on gère une entreprise, surtout dans l'hôtellerie. C'est ce que j'appréciais chez ma tante. Elle est franche comme l'or, si bien qu'elle fait partie de ces gens qui vous sont immédiatement sympathiques quand vous entrez dans une pièce. C'était donc d'autant plus étrange que je me sente gênée devant elle, sous la véranda d'une maison de Cambridge où je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne un jour. Je me tenais à un bon mètre d'elle, les mains encore enfoncées dans les poches de mon blouson, le visage plus fermé que je ne l'aurais voulu. « Charlène ?» dit-elle enfin, brisant le silence la première. « Comment ? Quand ? Il est temps, Charlène, que tu rentres à la maison. » Je l'ai encore regardée un moment, essayant de comprendre. Le bien-être qui suit l'entraînement s'était évanoui, laissant place à un malaise. « Entre donc », ai-je dit enfin en sortant maladroitement les clés de ma poche. Elle a vivement hoché la tête. Je me suis avisée qu'elle portait son long manteau d'hiver, mais ni bonnet ni gants. Ses joues, généralement pâles, avaient rosi sous l'effet du froid, et sa silhouette menue tremblait sous son manteau. J'ai eu des remords quand je l'ai prise dans mes bras à contre-temps et que je l'ai sentie me rendre mon étreinte avec bonheur. Ça aurait dû briser la glace, nous remettre sur nos rails. Au contraire, je me sentais encore plus déboussolée. Bien sûr que ma tante savait où j'habitais, elle était la seule personne avec qui j'étais restée en contact. J'avais même prévu de l'appeler aujourd'hui pour prendre mes dispositions au sujet de Tulipe. Seulement, de la voir là, maintenant, d'un seul coup, la veille du 21, ça m'a foutu les jetons et je me suis aperçue en la faisant entrer dans la maison que je la gardais légèrement devant moi, dans ma ligne de mire. Ma logeuse était une lève-tôt. Lorsque nous sommes entrées, elle a levé la tête de la table de cuisine. Elle était encore en peignoir à rayures roses et violettes, mais comme c'était une femme d'un certain âge, elle le portait bien. Elle a découvert la présence de ma tante, la toute première personne que j'invitais chez elle, avec une surprise non dissimulée. J'ai fait les présentations. Fran, ma tante Nancy. Tante Nancy, ma logeuse, Frances Bill. Ma tante s'est avancée pour lui serrer poliment la main, et de près, même Fran l'a vu grelotter. « Vous avez attendu dehors par ce temps. Mon Dieu, vous avez l'air transi. Je vais vous faire un café. Vous le prenez comment ?»« Noir, merci. Très jolie maison. »« Elle a 153 ans, » a spontanément indiqué Fran. « Mais j'aime à penser que cette vieille demoiselle n'en fait pas plus de 100. » « Je sais ce qu'elle peut ressentir, » a répondu ma tante. Frances, en riant, s'affairait dans la cuisine, allait chercher du café. J'ai pris le manteau de ma tante, je lui ai avancé une chaise, proposé un petit déjeuner. Elle a décliné, mais de telle manière que je ne l'ai pas prise au mot. J'ai accroché nos deux manteaux, je suis retournée dans la cuisine et j'ai regardé ce qu'il y avait sur l'étagère à mon nom dans le garde-manger, avant de finalement me décider pour du pain complet que je ferai griller. Derrière moi, Frances reprenait sa discussion avec ma tante à propos de la maison de Boston, du New Hampshire, des chambres à louer versus les maisons d'hôtes. J'étais contente que cela détourne leur attention, comme ça ma tante ne voyait pas à quel point mes mains tremblaient et Fran ne remarquait pas que j'avais d'un seul coup oublié comment fonctionnait le grille-pain. Ma tante et moi, nous nous étions parlé au téléphone pour la dernière fois 2 semaines plus tôt. Elle n'avait pas évoqué l'idée de venir, ni moi celle de rentrer. Nous avions nos habitudes, qui supposaient de ne jamais parler du 21. C'était le fondement de notre relation, après tout, nous aimer, nous soutenir et ne jamais aborder les vérités désagréables. Ce que j'avais vécu dans ma petite enfance était regrettable, ma mère avait mal agi, Randy puis Jackie avaient connu un sort tragique. C'est l'avantage avec la Nouvelle-Angleterre. Tout ce qu'on n'a pas envie d'affronter, on est très fort pour l'étouffer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un faible écho, qu'on enferme à double tour dans un placard. J'ai quand même réussi à prendre 2 tranches de pain pour les mettre dans le grille-pain. Pendant qu'elles brunissaient, j'ai trouvé la brique de blanc d'œuf pour faire des œufs brouillés. Tant que je m'affairais devant la cuisinière, je tournais le dos à ma tante et à ma logeuse. Elle semblait contente de papoter, mais de temps à autre, je sentais le regard de ma tante sur moi, évaluateur. Quand les toasts ont sauté, je les ai disposés sur 2 assiettes, j'ai réparti le blanc d'œuf brouillé dessus et apporté ma préparation à table. Ma tante a quitté Frances des yeux et sa voix s'est tout de suite éteinte. Elle regardait mon cou dénudé et Frances en a fait autant. Mes doigts se sont portés sur les bleus que m'avait laissé la rencontre de la veille avec JT. « Doux Jésus !» a murmuré ma tante. « Combat d'entraînement !» me suis-je défendu. « Ton cou ! Tes mains !» Plusieurs de mes phalanges étaient violets vifs, ma main gauche écorchée, mon poignet légèrement enflé. J'ai posé l'assiette de ma tante, caché ma main dans mon dos. « Vous devriez voir ce que je lui ai mis à l'autre !» Ma tante et ma logeuse me regardaient toujours, aussi horrifiées l'une que l'autre. « Ce n'est rien !» ai-je fini par dire plus fermement. « Je me suis mise à la boxe, c'est tout, et j'aime ça. Mange maintenant. » J'ai attrapé une chaise, je me suis assise à côté de ma tante, j'ai pris mon toast. Au bout de quelques instants, ma tante a hoché la tête, peut-être pour moi, peut-être pour elle-même, et elle a examiné son petit déjeuner. Après avoir observé le toast au blanc d'œuf avec curiosité, elle en a hardiment croqué une bouchée. « Excellent », a-t-elle déclaré après l'avoir avalé. Je n'ai jamais été fanat du blanc d'œuf, mais sur des toasts, ça passe très bien. C'est que notre demoiselle fait attention à sa ligne, dit Fran. J'ai regardé ma logeuse surprise. Je n'avais pas conscience qu'elle prêtait attention à mon alimentation, mauvaise ou bonne. Et puis, elle est travailleuse, continua Fran, comme si elle se portait garante de ma moralité auprès de ma tante. Elle fait sa permanence de nuit, rentre dormir et se tient toujours prête pour prendre son service le lendemain soir. Sérieuse, cette petite. Charlène a la tête sur les épaules, convint ma tante. Elle a toujours été d'une grande aide à la maison d'hôte. Elle m'a manqué cette année. J'ai pris une autre bouchée de pain, je commençais à me sentir spectatrice de ma propre vie. Le bail touche à sa fin, dit Fran en se tournant vers moi. Tu restes ou tu pars? Dimanche. Que tu me donneras ta réponse? C'est ça. Ma tante, qui connaissait l'importance du samedi à venir, me fit les gros yeux. Y compris pour la chienne qui n'est pas ta chienne, continua ma logeuse. Tu sais, celle qui est censée être dehors mais qui se trouve en fait dans ta chambre. J'ai rougi. Ma tante a haussé un sourcil. Oui, il faut que j'en parle avec ma tante, que je trouve une maison à tulipes. Dit Fran. D'ici dimanche? Oui, d'ici dimanche. Si elle fait ses besoins ou des dégâts, ce sera pour ta poche. Ça marche. Elle me plaît, dit ma tante en parlant de Frances. J'ai enfin souri. Ça ne m'étonne pas. En conduisant ma tante dans le couloir qui menait à ma petite chambre, j'ai senti la nervosité me gagner de nouveau. Comme une ado désireuse de faire bonne impression à ses parents en leur montrant sa première chambre d'étudiante. Regardez-moi, regardez l'existence que je me suis faite toute seule. Des draps propres, un lit au carré, les vêtements dans la penderie, tout ça, tout ça. Tulip nous a accueillis à la porte. À voir sa tête, elle n'avait pas apprécié d'être enfermée pendant mes aventures matinales. Même si vous recueillez un chien errant, il aura toujours la rue dans le sang. Il me semblait que je la comprenais. Elle a refusé de me faire la fête, réservant ses faveurs à ma tante qui a posé les questions classiques. Comment s'appelait-elle? De quelle race était-elle? Et fait les compliments de rigueur, quelle jolie bouille, quel bon caractère. Pendant qu'elle faisait sa cour à la chienne, dont j'espérais qu'elle deviendrait sa chienne, j'ai consciencieusement rempli mon rôle d'hôtesse. Refermé la porte derrière nous pour plus d'intimité, réchauffé du café pour ma tante. Nous nous sommes assises, moi au bord du lit, elle sur la seule chaise en bois, et Tulip par terre entre nous. La conversation a presque tout de suite tourné court. « Désolée que tu aies dû faire la route, » ai-je dit. Je ne la regardais pas vraiment, plutôt le sol au pied de sa chaise. Je repensais au portrait de l'agresseur de Randy et Jackie dressé par Didi Warren. Ce serait un intime, dont je n'aurais pas immédiatement peur, que j'accueillerais à bras ouverts. Je ne pouvais pas réellement avoir peur de ma tante, si ? « Est-ce que la police a de nouveaux éléments ? » a-t-elle demandé. « Sur l'assassinat de Randy et Jackie ?» J'ai secoué la tête. « Mais je suis en relation avec deux enquêtrices de Boston. Elles ont de nouvelles idées. »« Tu penses toujours que tu seras la prochaine ?» C'était une affirmation, pas une question. J'ai confirmé. « Tu as perdu du poids, Charlène. Tu as l'air changée. Endurci. Probable. Ça ne te vaut rien, Charlène. La vie que tu mènes aujourd'hui, ça ne te vaut rien. Je me suis moi-même étonnée. J'ai relevé la tête, regardé ma tante dans les yeux et demandé « Qu'est devenue ma mère ?» Ses yeux bleu pâle sont devenus tout ronds. Je ne crois pas que je lui aurais causé un choc plus grand si je lui avais annoncé que j'étais un homme prisonnier d'un corps de femme. Mais elle s'est reprise. Elle a tripoté ses cheveux un instant, tâté sa nuque, coincé un petit frisottis derrière son oreille. Ses mains tremblaient. Si je paraissais plus dure que dans ses souvenirs, elle-même semblait plus vieille, comme si le long hiver lui avait en partie ôté la volonté de se battre. À moins qu'elle aussi n'ait passé l'année à faire un compte à rebours avant le 21. Qu'y a-t-il de plus stressant? Craindre pour soi-même ou craindre pour un être cher? Que crois-tu qu'elle est devenue? Dit-elle enfin. Elle est morte. Par ma faute. Je crois que j'ai fait quelque chose. J'ai résisté ou j'ai fini par exploser. J'ai perdu le contrôle. Et je l'ai blessée. Grièvement, et c'est pour ça que je ne m'en souviens pas. Je refuse de regarder la réalité en face. Elle n'est pas morte, Charlène. Du moins pour autant que je sache. Pardon ? Charlène Rosaline Carter Grant, a dit ma tante en changeant de ton, comme pour me tester. Je ne comprends pas. Est-ce que tu as envie de comprendre ? Pourquoi tu me poses tout le temps ce genre de questions ? Parce que dès mon arrivée à l'hôpital, c'est ce que m'ont conseillé les médecins. Il ne fallait pas te dire ce qui s'était passé, mais t'aimer et te soutenir jusqu'au jour où tu te sentirais suffisamment en sécurité pour te souvenir toute seule. J'ai vécu 20 ans, Charlène, sans jamais savoir si ce serait la semaine où tu aborderais d'un seul coup le sujet, ou, pire, si ce serait le jour où elle réapparaîtrait comme par enchantement. J'ai veillé seule, et dans l'angoisse, mais je l'ai fait parce que c'était ce qu'avaient recommandé les médecins. Je n'ai pas d'enfant, Charlie. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire ou ne pas faire avec une petite fille de 8 ans. Ma seule expérience éducative remontait aux années où j'avais essayé de tenir la bride à ma petite sœur. Et on sait toutes les deux ce que ça a donné. Sa voix s'est brisée avec des accents amers que je ne lui connaissais pas. Puis j'ai remarqué que ses yeux brillaient et que cela n'avait rien à voir avec l'éclairage. Je l'avais peinée. J'avais fait pleurer ma tante. Immédiatement, j'ai eu envie de tout reprendre. J'étais désolée d'avoir parlé de ma mère, désolée d'avoir quitté le New Hampshire. J'aurais fait n'importe quoi, dit n'importe quoi. Je serais rentrée à la maison. Tout pour que ma tante soit heureuse. Elle était tout ce que j'avais et je l'aimais. Et puis, aussitôt, je me suis rendu compte à quel point c'était pervers. À quelle vitesse j'étais retombée dans le piège de l'apaisement à tout prix. Aimer trop peu, serrer trop fort. Le pire étant que ma tante n'attendait même pas de moi que je l'apaise. Le dos droit, la mâchoire crispée, elle attendait simplement ma question suivante. Si ma mère est vivante, ai-je osé? Pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais repris contact avec moi? Je ne sais pas. Elle hésitait. J'ai toujours pensé qu'elle le ferait. Sinon en personne, du moins par lettre. Et plus tard, quand toutes ces absurdités d'Internet, de courriel et de Facebook sont apparues, ça m'a aussi inquiétée. Mais rien de ce que j'ai vu ni de ce que tu m'aurais dit, rien. Pas un seul modèle, lui ai-je confirmé. J'ai pris un instant pour digérer l'information. Charlène Rosalind Carter Grant, a répété ma tante. Est-ce que je l'ai blessée? Inconsciemment, mes doigts frôlaient mon côté gauche, le haut de ma cuisse, le dos de ma main. C'était plus fort que moi. On ne sait pas. Quand les secours sont arrivés, ils t'ont trouvée par terre grièvement atteinte. En fait, ils ont cru que tu étais morte. Ma tante parlait d'une voix monocorde. Cela faisait manifestement 20 ans qu'elle tournait et retournait ses phrases dans sa tête. Aucune trace de ta mère dans la maison. Elle s'était enfuie? La police a lancé un avis de recherche, surtout après les autres découvertes. Elle s'est interrompue, me regardant toujours. Et comme je ne réagissais pas, à ce jour, ils ne l'ont pas retrouvée, autrement je le saurais. Ta mère est sous le coup d'une inculpation, Charlène, pour des crimes d'une extrême gravité, ce qui explique peut-être qu'elle ne soit jamais réapparue. Je suis sûre qu'elle sait que je l'enverrai croupir en prison dans la minute. J'ai scié, prise au dépourvu par sa véhémence. Je me suis rendu compte que j'avais passé l'essentiel de mon existence à craindre de devenir ma mère démente, d'où le besoin d'oublier, d'éviter, de ne pas affronter. Si je ne me souvenais de rien, je ne ressentais rien. Si je ne ressentais rien, je ne pouvais pas perdre la raison. Mais voilà que je me demandais maintenant s'il n'y avait pas chez moi des points communs avec ma tante que rien n'abattait, une femme qui regardait, qui voyait, qui endurait. Une survivante. Vu la date, ça m'aurait bien plu d'être une survivante. Tu te souviens du jour où tu as eu ton permis de conduire ? M'a-t-elle brusquement demandé. Désarçonnée par ce changement de sujet, j'ai faiblement hoché la tête. Tu voulais qu'on écrive Charlène Rosaline Carter Grant sur ton permis, et quand on t'a dit que c'était impossible, tu t'es mise dans tous tes états. Je trouvais ça ridicule qu'on ne puisse indiquer que deux prénoms. Si ça devait être une pièce d'identité officielle, mon nom officiel devait y figurer en entier. Mais non. Perplexe, j'ai regardé par terre. Et d'un seul coup, je me suis revue au centre de gestion des véhicules de Tamworth, où il fallait se rendre en personne pour récupérer son premier permis. Ça aurait dû être un moment plaisant et excitant pour une adolescente, mais moi, j'étais écarlate, en nage. Je suffoquais, écrasée par un poids que je ne m'expliquais pas. Ma tante me parlait, me murmurait des choses posément à voix basse, mais je ne l'entendais pas. Ma tête était en feu, mon crâne menaçait d'exploser en mille morceaux. J'allais pleurer. J'allais hurler. Il ne fallait pas que je pleure, pas que je hurle, alors j'ai enfoncé mes poings dans mes orbites pour contenir ma douleur. Ensuite, quand ça n'a pas suffi, je suis allée me cogner la tête contre le mur, comme si cette force extérieure pouvait chasser mes tourments intérieurs. Je me suis cogné le front avec une telle violence que deux policiers d'État sont arrivés en courant, une main sur la crosse de leur arme. Charlène Rosalind Carter Grant. Il fallait qu'on lise Charlène Rosalind Carter Grant sur mon permis de conduire. Il aurait été trop douloureux que ce ne soit pas le cas. Trop douloureux d'être quelqu'un d'autre. J'ai vomi, murmurai-je. Il a fallu que je sorte. J'ai fini par te raccompagner à la voiture, a continué ma tante. Je t'ai reconduite à la maison, je t'ai mise au lit. Et je suis restée debout toute la nuit en attendant que tu redescendes, que tu me parles, que tu me dises ce dont tu t'étais souvenue. Mais tu ne l'as pas fait. À 7 heures du matin, tu es entrée dans la cuisine et tu m'as annoncé que si tu ne pouvais pas avoir les deux autres prénoms sur ton permis, tu accepterais Charlène Grant. Et tu n'en as plus jamais reparlé. Ma migraine était passée. Je me suis réveillée. J'ai décidé qu'il ne s'agissait que de mon permis de conduire, pas de mon nom. Alors ça n'avait pas d'importance. Je pouvais... Ça irait. Ma tante m'a souri, mais tristement. Elle a caressé ma main, où les fines cicatrices blanches couraient sur des hématomes violacés tout frais. Tu es forte, Charlène. Si tu éprouvais le besoin d'oublier le passé pour aller vers ton avenir, je ne me sentais pas le droit de contrarier ce processus. En fait, les médecins m'avaient dit que t'obliger à affronter ton vécu avant que tu ne sois prête risquait de faire plus de dégâts qu'autre chose. Alors j'ai gardé ce que je savais pour moi. J'ai veillé, et si c'était à refaire, je recommencerais, Charlène. Parce que je n'étais pas là quand tu avais eu besoin de moi, et que je ne me le pardonnerai jamais. Mais c'est à moi de porter ce fardeau, pas à toi. Mon nom officiel n'est pas Charlène Rosaline Carter Grant, ai-je articulé comme une automate. Ce n'est pas le nom qui figure sur ton acte de naissance. C'est pour ça qu'au service de délivrance des permis, ça n'avait rien à voir avec le nombre de mes prénoms. C'était mon acte de naissance. Tu me l'as montré et ça m'a mise en colère, parce qu'il n'y avait dessus ni Rosaline, ni Carter. Alors j'ai commencé à avoir mal à la tête, et mon estomac... Ma tante ne disait rien. « Mais je suis Charlène Rosaline Carter Grant, » ai-je insisté plus faiblement, sans véritable conviction. « Je le sens. » C'est le nom que tu t'es choisi. Il n'y a rien de mal à ça. Alors ça m'est revenu. La liste que j'avais dressée pour Didi Warren. Les deux noms que je m'étais irrésistiblement senti poussée à écrire, Rosaline Grant, Carter Grant. Parce que ça me paraissait bien de les coucher sur le papier, de les voir noir sur blanc sur une feuille dans le bureau d'une enquêtrice. D'exprimer enfin ce que je n'avais pas réussi à dire à l'infirmière. J'ai regardé ma tante. Et j'ai senti une porte dérobée s'entr'ouvrir brusquement sur les recoins les plus intimes de mon esprit. Derrière cette porte, il y avait des ténèbres. Des fantômes, des monstres et des choses à faire hurler n'importe qui au milieu de la nuit. Pourtant, je me suis approchée encore. Charlène Rosalind Carter Grant. Rosalind Grant. Carter Grant. Le bébé pleure, ai-je murmuré. Je suis désolée, Charlène. Je voulais le dire à l'infirmière. Je ne lui ai pas dit. Encore un pas. Le plancher gémissait sous mes pieds comme un avertissement. J'étais trop petite. Je te le jure. J'étais trop petite. Chut. Ma tante, debout, tendait les bras vers moi. À ses pieds, Tulip a gémi, s'est assise. Tout va bien, Charlène. Ce n'était pas de ta faute. Ça n'a jamais été de ta faute. Je n'étais moi-même qu'une enfant. Je sais, chérie. Je sais. Le bébé pleure. Sauf que ce bébé ne pleurait plus. Il était aussi pâle et immobile que du marbre. Les lèvres bleues, tandis que je caressais sa joue froide, que j'essayais de lui faire ouvrir les yeux, que j'essayais de lui faire faire ce grand sourire radieux. Charlène Rosalind Carter Grant. Rosalind Grant. Carter Grant. Ma tante avait mis ses bras autour de mes épaules, peut-être même ses mains autour de mon cou, ça n'avait plus d'importance. Je me suis effondrée contre sa poitrine. Mourir n'était plus ma grande peur, c'était me souvenir. Le bébé pleurait au bout du couloir. D'abord une petite fille, Rosalind Grant. Et puis, plus tard, un petit garçon, Carter Grant. Et puis, Charlène Rosalind Carter Grant. Chut, murmurait ma tante. Si j'avais su, je serais venue. Je t'en prie, crois-moi, Charlène. Si j'avais su, je serais venue et je vous aurais tous emmenés.